13h30 sur France Inter, la marche de l'histoire, une émission qui fait un tabac. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Servageant. Vous savez, on va dire du bien du président Johnson. D'abord, il faut expliquer qu'il a amplifié le service public radiophonique aux États-Unis.
Ça peut pas faire de mal. Hein.
Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
La grande société, selon le président Johnson.
The great society rests on abundance and liberty for all.
L'abondance, la liberté pour les États-Unis, libérés de l'injustice raciale, ainsi parlait le président Johnson il y a 50 ans. Comparé à Kennedy qu'il avait dû remplacer au pied levé après son assassinat, le bonhomme ne paraissait pas aimable. Peu de principes, encore moins de manières, c'était un Texan mal dégrossi. Au mépris social dont il était entouré s'ajoute le souvenir de l'engagement à marche forcée dans la guerre du Vietnam. Johnson reste comme un président maudit, un président de guerre, Mars. En politique extérieure, il a en réalité prolongé les choix de Kennedy. Et en politique intérieure, il a fait bien davantage que lui. Les Noirs ont été protégés enfin de la discrimination raciale qui régnait par la loi dans les États du Sud. Les pauvres, grâce au projet multiforme de grandes sociétés, ont été appelés à préparer un autre horizon que la misère et la fatalité. Il ne s'agit pas d'oublier le Vietnam, ni de considérer Johnson à l'aune de l'État-providence à l'européenne. Tout de même, ces 6 ans de présidence, ce n'est pas seulement une mauvaise guerre, mais aussi au moins 2 grandes lois, l'une antiraciale, l'autre sociale. Ce président était obstiné dans ses choix, mais il pouvait réussir aussi grâce à son habileté à la manœuvre.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Romain Huret, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié aux éditions de l'EHESS, vous êtes maintenant directeur d'études, un livre sur la fin de la pauvreté, la guerre en tout cas contre la pauvreté aux États-Unis, qui va bientôt être traduit. Vous m'avez apporté un livre écrit directement en anglais.
Tout à fait, oui.
Chez Harvard, Université Press, et qui est consacré aux gens qui résistent au bolchevisme, enfin je veux dire à l'impôt.
À l'impôt progressiste.
Les gens qui résistent contre les taxes. Alors, vous êtes alternatif. En France, où vous enseignez, et aux États-Unis, où vous enseignez souvent, juste une plaisanterie, on dit Lyndon Baines, B. Johnson, et vous maintenant c'est
Romain D. Huret, c'est
très chic.
Une blague de l'éditeur qui me demandait si j'avais un middle name, et j'ai répondu que les Français avaient 2 middle names, et en l'occurrence le mien est Dante Michel, donc j'ai choisi le D.
Voilà. Ben, je vais peut-être le redire au long de l'émission. Vous signez simplement Romain Huret un article dans le numéro d'avril d'Alternative Économique qui est consacré justement au programme Johnson. Commençons peut-être par la question raciale. Les chiffres de la pauvreté et les chiffres de la pauvreté noire, ils sont établis à l'époque qui nous concerne, milieu des années 60?
Pas encore, il y a un flottement au début des années 60, mais des indications montrent bien que la pauvreté existe d'une part, hein, on estime environ 20% d'Américains qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté qui est en train d'être créé au début des années 60, et que à l'intérieur de ce groupe de pauvres, les Noirs sont surreprésentés hein, entre 30 et 40%. Selon les estimations.
Les textes et les habitudes dans les États du Sud demeurent discriminatoires et le projecteur pendant ces années va se braquer très souvent sur un État, l'Alabama, dont le gouverneur est assez pittoresque ou en couleur.
Oui, tout à fait. C'est George Wallace, un gouverneur particulièrement raciste qui avait promis de maintenir la ségrégation jusqu'à sa mort et pour les générations futures d'Américains.
Nous sommes en 1963, c'est le film Forrest Gump.
Des troupes de fédéraux, pour faire appliquer une décision de la cour, ont pénétré dans l'université d'Alabama aujourd'hui. 2 nègres ont été admis, mais uniquement après que le gouverneur George Wallace ait symboliquement barré la porte d'entrée.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Il y a 2 rats qui veulent entrer à l'école.
Des rats? Quand les rats essaient d'entrer par la véranda, maman arrive à les chasser d'un coup de balai.
Pas de vrais rats, crétin, des nègres. Et ils veulent venir à l'école avec nous.
Dès qu'il a su que le gouverneur Wallace tenait sa promesse de bloquer l'entrée, le président Kennedy donna l'ordre au secrétaire à la défense d'utiliser les forces militaires. Voici maintenant l'enregistrement que nous avons fait de la rencontre du général Graham, commandant de la garde nationale, et du gouverneur Wallace.
Parce que la garde nationale ici présente est formée de soldats de l'armée fédérale en Alabama et sont nos frères. Nous sommes gagnants dans ce combat parce que nous faisons comprendre au peuple américain c'est qu'une dictature militaire n'est pas souhaitable dans notre pays.
Et c'est ainsi qu'à la fin de la journée, l'université d'Alabama à Tuscaloosa a aboli ses mesures de ségrégation et que les étudiants Jimmy Hood et Vivian Malone ont été inscrits pour la session d'été.
Le mot nègre est employé. Johnson lui-même, quand il était sénateur et même président, employait encore le mot nègre.
Oui, tout à fait. Beaucoup de gens emploient alors le mot nègre, un nigger en anglais, et ce n'est qu'à la fin de la décennie que ce mot va disparaître.
Un étudiant ne peut pas entrer aisément dans une université d'Alabama s'il est noir. Le chauffeur de Johnson, quand il l'emmène du Texas à Washington, n'a pas le droit d'utiliser les toilettes publiques.
Oui, c'est un des grands problèmes pour les Américains et pour la présidence, puisque même des diplomates africains n'avaient pas le droit de circuler librement dans le pays et ne pouvaient pas se rendre dans les hôtels qu'ils souhaitaient. Donc là, il faut bien comprendre à quel point la ségrégation était très très présente dans le Sud à ce moment-là.
Vous parlez des diplomates africains. Les questions du monde pour le président Kennedy, qui est encore là jusqu'en novembre 1963, Johnson c'est son vice-président, sont des questions de politique intérieure américaine.
Oui,
excusez-moi. En même temps, la question noire gêne la politique extérieure américaine. Qui veut essayer de convaincre les États sous-développés de ne pas rejoindre la révolution tiers-mondiste.
Oui, tout à fait. C'est un problème par rapport au mouvement de décolonisation, mais c'est aussi un problème dans le cadre de la lutte contre l'ennemi soviétique, hein, puisque les soviétiques utilisent très habilement ce paradoxe américain, hein, qui à la fois promet d'être le leader du monde libre et qui en même temps n'accorde pas cette liberté aux Noirs dans les États du Sud.
Alors Johnson, quand il prend le pouvoir, va quand même déployer beaucoup de qualités. Il a une opposition quand il s'agit d'abolir la discrimination dans les États du Sud, au Congrès, au Sénat. On dit qu'il sait subjuguer le Congrès.
Oui, il est extrêmement habile avec les élus du Congrès. Il a une longue pratique du Congrès, donc sa grande force va être d'utiliser le capital de réforme qui va naître après l'assassinat de Kennedy, un assassinat qui émeut profondément le pays. Et Johnson, en habile politicien, comprend qu'il faut faire passer les réformes très vite en utilisant ce moment exceptionnel de recueillement que vit l'Amérique à l'automne 63.
C'est-à-dire en jouant l'émotion, je vais réaliser les promesses que le président mort n'a pu mettre au point.
Tout à fait, et en jouant sur la violence aussi de l'assassinat, en expliquant que ce n'est pas ça l'Amérique, et que l'Amérique est une terre généreuse, et qu'il faut mettre en place des programmes qui vont renouer avec l'esprit de générosité.
Des moments comme ça, c'est bien de ne pas avoir beaucoup de manières, parce qu'il convoque un par un les sénateurs, et il leur dit « je te passerai sur le corps ». Je te préviens parce que je t'aime bien, ajoute-t-il.
Oui, il est connu pour être extrêmement violent avec ses collaborateurs, les emmenant jusqu'en dans les toilettes pour leur annoncer des réformes. Donc il a toujours mis en place une pratique politique très brutale.
Je réformerai jusque dans les toilettes.
Exactement.
Il va réussir donc à faire passer un texte qui prohibe toutes les discriminations en fonction de la race, de la couleur de la peau, de la religion, des origines ethniques, du sexe.
Oui.
Enfin, le sexe, moyennement quand même. Hein, parce que on peut être antiraciste, c'est pas être encore complètement féministe. Et ça va quand même être un très grand changement de base électorale pour les démocrates. Romain dit, eh ben on va donner le Sud aux républicains avec la réforme que je fais.
Oui, il sait absolument que les effets vont être désastreux dans les États du Sud, hein, puisque la population blanche va se mettre à voter pour le Parti républicain. Et dans l'Amérique actuelle, nous sommes toujours dans cette configuration politique où le Sud a basculé largement pour le Parti républicain.
Oui, mais alors, dans ce cas-là, il faut compenser en obtenant le vote noir pour les démocrates.
Oui, et les programmes sociaux dont nous allons parler dans la deuxième partie s'inscrivent dans cette reconquête d'un autre électorat plus jeune, plus féminisé, plus métissé. Et il essaye de rebâtir une coalition électorale dans l'Amérique post-raciale, mouvement pour les droits civiques.
Encore faut-il que les Noirs soient inscrits.
Oui, ça va être l'enjeu de la loi de 65 qui va favoriser et permettre l'inscription massive des Afro-Américains sur les listes électorales.
Parce que c'est pas facile pour les Noirs de s'inscrire. Il y a des obstacles de la part des Blancs dans le Sud. Je crois qu'il y a 2 millions de Noirs inscrits là où il pourrait y en avoir 5 millions.
Tout à fait, il y a des menaces très fortes qui vont être mises en place, et donc il faudra un mouvement, et Martin Luther King va accompagner ce mouvement pour permettre l'inscription des Afro-Américains sur les listes électorales.
Les soutiens à Johnson sur cette question, comme sur la question de la loi sur la non-discrimination, c'est Martin Luther King, c'est des organisations d'étudiants noirs aussi.
Oui, d'étudiants noirs, d'étudiants blancs également. Il a un soutien très fort. Hein. Il faut bien mesurer la force du recueillement après l'assassinat de Kennedy, hein, qui est semblable un petit peu à ce qu'a connu la France au mois de janvier. Hein,
peut-être de plus longue durée.
Peut-être, oui. et avec une volonté très forte, hein, de réformer le pays et de cesser ces violences, hein, qui ne sont pas l'Amérique.
Le mouvement civique décide de braquer les projecteurs une fois encore sur l'Alabama. Selma est voisin de Montgomery, la capitale de l'Alabama, et une marche est préparée, dirigée par Martin Luther King, mais ni le gouverneur Wallace, ni le shérif local ne l'entendent de cette oreille.
Monsieur King, bonjour. Une déclaration, s'il vous plaît.
J'en appelle à tous. Si vous pensez que tous les hommes ont été créés égaux, venez demain, Selma. Rejoignez-nous. Rejoignez notre marche contre l'injustice et contre l'inhumanité. Nous comptons sur votre soutien.
Une fois encore, l'Alabama a été le théâtre du conflit racial américain. Les Noirs qui avaient entrepris une marche en faveur de leur droit de vote ont été chargés par la police d'État.
Vous vous rendez responsable d'obstruction de la voie publique. Si vous ne vous dispersez pas, vous serez arrêté.
Shérif Clark, nous voulons accéder au bureau d'inscription sur les listes électorales, comme la loi nous y autorise.
Vous êtes trop nombreux, et vous le savez très bien. Va falloir aller faire la queue à l'arrière.
Non, Shérif Clark, nous entrerons par devant, et nous attendrons ici même. La ségrégation est maintenant illégale dans ce pays, monsieur.
Dégagez le trottoir! Dégagez le passage! Dégagez le passage! Débarrassez le plancher! Allez, du balai, foutez-moi le camp! Assieds-toi, nom de Dieu!
La répression des troupes du gouverneur Wallace a été si violente que dans plusieurs États, des Blancs se sont solidarisés avec les Noirs et ont organisé des manifestations en faveur de l'intégration. En apprenant la mort d'un pasteur blanc, James Reeb, venu participer aux manifestations intégrationnistes de Selma et qui avait été frappé par des racistes blancs, le président Johnson devait déclarer que tous les moyens seraient mis en œuvre pour que les États-Unis assurent la justice aux hommes de toutes les races.
Archive Gaumont, et puis des extraits du film qui vient de sortir en 2015, Ava DuVernay, le film Selma dans Alternative économique de ce mois-ci. On voit la photographie de Obama marchant en chemise blanche et tenant la main d'une survivante de cet épisode décisif de Selma qui maintenant est en fauteuil roulant.
Oui, tout à fait. C'est un épisode fondateur pour la communauté afro-américaine. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, une militante afro-américaine qui s'appelle Fannie Lou Hamer disait qu'un chien était mieux traité qu'un afro-américain dans l'Alabama. Donc le mouvement a été d'une violence considérable et a marqué durablement la communauté noire aux États-Unis.
Le premier conseiller noir à la Maison-Blanche, le premier juge noir à la Cour suprême, c'est Johnson.
Oui, tout à fait. Oui. Il met en place une politique de nomination très importante pour les citoyens les plus brillants de la communauté afro-américaine.
N'oubliez pas quand même, Romain D. Huret, que le gouverneur Wallace s'est converti sur le tard.
Sur le tard, oui. Il s'est excusé publiquement de ses propos et de ses politiques très hostiles aux Afro-Américains.
C'était un born again.
Si on peut le dire ainsi.
La partie n'est jamais gagnée. On sait que dès l'été 1965, selon un mécanisme qui continue à fonctionner dans l'Amérique d'aujourd'hui, des émeutes ont lieu à Watts, un quartier de Los Angeles. Un policier blanc arrête un noir, les amis du noir protestent. Et pendant des jours et des jours, c'est l'émeute. Le président Johnson et Martin Luther King se sont dit « Comment c'est possible après tout ce que nous avons accompli ?»
Absolument, les émeutes de Watts, c'est un choc très important pour Johnson et ses conseillers, qui ne voient pas du tout venir l'émeute, et qui ne comprennent absolument pas cette jeunesse très violente, qui agit dans les rues de Los Angeles pendant plusieurs jours. Il faudra faire intervenir la garde nationale, et c'est un moment de rupture entre l'administration de Johnson et le pays dans son ensemble.
Alors, la rupture, on y viendra tout à l'heure, mais gardons quand même la mémoire de l'acquis, Nina Simone, qui avait pris la parole. Selma enregistre alors ce texte des années 30 qui est enfin renvoyé au passé et qui évoquait les arbres du sud aux branches desquels pendaient d'étranges fruits, des corps noirs lynchés qui se balançaient dans la brise.
seven trees. Barren, strange fruit. Blood on the leaves. And blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Romain Huret, grand connaisseur de la lutte contre la pauvreté aux États-Unis, vous consacrez ce sujet à un article dans le dernier numéro, Avril, d'Alternatives économiques. Le président Johnson, on parle de ses mérites et de son optimisme, imaginait que d'ici 1976, les pauvres ne seraient plus pauvres.
Absolument, c'est un rêve tout à fait incroyable, hein, mais il est persuadé que pour les 200 ans de la naissance du pays, hein, le bicentenaire, le pays ne compterait plus de pauvres, et que dans la lutte contre l'ennemi soviétique, hein, l'Amérique montrerait sa capacité à promettre, à donner le bonheur à tous.
Mais donc, j'ai dit les pauvres parce que, dans un esprit anglo-saxon bien constitué, la pauvreté, à proprement parler, ça n'existe pas.
Oui, il y a une tradition qui est très forte en Angleterre, aux États-Unis. On a tendance à plus regarder les pauvres que la pauvreté et à individualiser, hein, la pauvreté, à y voir des marques individuelles, hein, qui seraient responsables ou pas de l'état de pauvreté.
D'où l'effet que produisent aux États-Unis un certain nombre de livres qui ne concernent pas nécessairement les États-Unis, mais qui ont beaucoup de succès dans ce début des années 60. Il en est un qui a été traduit en français, qui est superbe, Oscar Lewis, Les enfants de Sanchez.
Oui, un très beau livre, hein, qui est une étude de la pauvreté au Mexique et des enfants mexicains. Sanchez invente alors le concept de culture de la pauvreté, hein, où il montre que dans les familles mexicaines, la pauvreté se reproduit de génération en génération. Et le livre est un grand succès aux États-Unis, où le président Johnson lui-même réintègre le concept pour décrire les situations américaines, hein, et expliquer que la culture de la pauvreté est aussi un phénomène très important aux États-Unis, un des pays les plus riches du monde.
Parce que Johnson, qui a la réputation de ne pas lire, fait lire par ses experts. Voici un reportage de 5 colonnes à la une de cette époque, et moi qui me rappelle un autre livre, Louons maintenant les grands hommes, un livre de l'époque du New Deal, où on voyait des blancs pauvres.
Tout à fait, hein, et Johnson est fasciné par Roosevelt, hein, par les années 30, par le volontarisme de Roosevelt, et il veut reproduire la même chose et mettre l'accent principalement sur les blancs pauvres, et c'est ce qu'il fait, je crois, dans ce documentaire dont vous avez passé un extrait, je pense.
Dans la photo que vous publiez dans l'Alternative économique, on le voit au bras de Lady Bird, sa femme, qui était dévouée, hein, parce qu'elle supportait quand même beaucoup d'avalie, et ils sont là, au pied d'une famille. Dans les Appalaches, bien sûr.
Voici la route qui mène à l'école de Perth Creek, dans le Kentucky. Ce chant de Noël, c'est le seul que la plupart des élèves de Virgie Center entendront cette année, dans l'unique salle de l'école, ce jour de Noël. C'est à l'aîné des garçons de remplir le poêle, comme c'est à l'aîné des filles de chercher l'eau potable à la source. car Mrs. Hunter est trop occupée avec ses 7 classes dans une seule salle qu'elle doit balayer elle-même. Elle doit faire aussi le repas de midi. C'est le gouvernement qui fournit la nourriture. Quelques-uns des élèves peuvent apporter chaque jour les 20 cents qu'ils doivent payer, et des gens charitables payent pour les autres. Ainsi, la plupart des élèves de Virgie Center peut avoir au moins un repas chaud par jour, même s'il n'y a rien à la maison. Et ceci n'a rien d'étonnant par ici, dans le Kentucky, où près d'un demi-million de gens vont trouver leur repas de Noël dans les surplus du gouvernement.
One buck of cheese, 2 pounds of butter, and 2 pounds of rice.
You mean to sign here?
4 pounds of beans, 2 bags of meal, and 1 bag of flour.
Hiram Mitchell, lui, aime bien ses voisins. Et certains mois, il leur donne plus qu'il ne leur vend. Ils viennent et m'en disent tous les jours, « J'ai pas mangé un morceau depuis 2-3 jours. Alors il faut leur donner quelque chose à manger. Alors je le fais. »
On voit comment tout s'enchevêtre dans ce reportage de 5 colonnes à la une, signé Antoine Hirsch, l'épicier qu'on vient d'entendre déborder, l'institutrice. Elle doit faire la cuisine avec des surplus de nourriture qui sont confiés par le gouvernement à des gamins qu'elle n'a pas le temps d'instruire.
Oui, tout à fait. Ça montre, ce reportage est typique de ce que l'on peut voir à la télévision ou lire dans la presse pendant l'année 64, hein, où Johnson met en place ce programme de lutte contre la pauvreté. C'est une pauvreté localisée aux Appalaches, hein, dans ces terres anciennes, hein, de la nation américaine, et une pauvreté blanche, hein, et qui montre bien que les enfants sont les principales victimes de la pauvreté, puisque, comme le dit le reportage, hein, ces enfants n'ont pas le temps d'être instruits. Et donc, s'ils ne vont pas à l'école, la pauvreté va se reproduire de génération en génération.
Une grande histoire que racontait sans cesse Johnson concernait les rats qui menaçaient d'attaquer les enfants pauvres.
Tout à fait. Lui-même a été instituteur dans le Texas, hein, et il dit qu'il a été profondément marqué par la misère, hein, des petits-enfants qui venaient dans sa classe. Et qu'en tant que politique, il a toujours souhaité mettre un terme à cette pauvreté sur le sol américain.
Voyez, vous progressez dans votre portrait de Johnson. Vous le traitiez tout à l'heure de politicien. Maintenant, vous dites que c'est un homme politique. Et figurez-vous que l'instituteur, qui ne lit pas de livres, il est capable de parler, 1964, toujours à l'université du Michigan. Alors, il prend ses précautions. Hein. Il rend hommage à l'aréopage de professeurs qui est là. Et puis, au fait que cette université est depuis longtemps, bien sûr, une université mixte. Et voici ce qu'il dit.
C'est de plus en plus difficile de vivre correctement dans les villes américaines. La liste des défauts de nos villes est longue. Le centre des villes, leurs banlieues, se dégradent à vue d'œil. Pire, leur expansion est à l'origine de l'érosion, de la dégradation de nos précieuses valeurs de la vie en communauté. Le tout en communion avec la nature. La perte de ces valeurs engendre la solitude, l'indifférence. Le deuxième endroit où nous avons commencé à mettre en place la grande société est la campagne. De tout temps, notre pays a été salué non seulement pour sa force, sa liberté, mais aussi pour la beauté de ses paysages. Aujourd'hui, cette beauté est en danger. L'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons sont pollués. De même que pour nos parcs et nos océans, nos champs verts et nos denses forêts disparaissent.
Green fields and dense forests are disappearing.
L'école est le troisième espace où il convient de construire la grande société. Là, la vie de nos enfants sera littéralement façonnée. Notre société ne sera pas à la hauteur tant que chaque jeune esprit ne sera pas libre de parcourir et d'atteindre l'ensemble des connaissances humaines. Ce sont les 3 grands points du projet de la grande société.
Dites-nous, Romain Dihuret, il est très en avance, Johnson, ou bien ses experts qui lui font parler de la dégradation de la nature, de la pollution. C'est une affaire d'experts aussi, ce grand plan.
Oui, tout à fait. L'Amérique, dans les années 60, écoute beaucoup les experts et Johnson, comme d'autres hommes politiques, sont persuadés qu'il est possible de résoudre n'importe quel problème social, écologique, éducatif, en réunissant un aéropage d'experts et en trouvant des solutions.
Les meilleurs et les plus intelligents.
Exactement, les meilleurs d'entre nous. Et ça vient de la Seconde Guerre mondiale où les experts avaient mis en place l'opération Manhattan pour construire la bombe atomique. Et on pense qu'on peut faire la même chose pour les écoles, pour l'écologie, pour la circulation. Par exemple, il y a des grands projets pour résoudre la circulation dans les grandes villes et y mettre un terme aux embouteillages. Et donc, on voit bien dans ce discours de l'Université du Michigan où les experts ont fait le discours, ont fait un beau discours et lui donnent des solutions pour mettre un terme aux grands problèmes du temps.
Il est habile parce qu'il prend comme expert en chef pour la grande société le beau-frère de Kennedy.
Oui, tout à fait, qui va mettre en pratique, hein, qui est un très bon praticien et qui sait mobiliser les équipes et résoudre des problèmes, même si l'expérience tournera à court.
Je vous laisse dire son nom parce que Romain dit Huret, vous connaissez beaucoup mieux l'américain que moi.
Sergeant Shriver, qui est famille Shriver.
Attention, expliquez-vous, ce n'est pas le modèle européen d'État-providence. On peut prendre l'exemple de la santé, par exemple.
Donc, Kennedy et Johnson pensent la même chose. Il est hors de question d'appliquer un État-providence sur un mode européen, comme on l'a connu après la Seconde Guerre mondiale en France ou en Angleterre. Ce qu'ils veulent, c'est mettre en place des programmes qui vont permettre aux pauvres de s'insérer dans des politiques communautaires, éducatives, sociales, pour les réinsérer dans la société.
C'est à eux de prendre en main.
C'est à eux de prendre en main leur destinée. Et ils ne veulent pas leur donner de l'argent. Et Johnson ne dit pas d'argent, mais des programmes, des idées concrètes pour les réinsérer dans la société.
Et des moniteurs qui les entraînent, Obama a été l'un d'entre eux
plus tard, à Chicago, tout à fait. Obama commence comme moniteur ou organizer, comme on dit en anglais.
Vos héros de votre dernier livre sur les adversaires du fisc diraient « c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de keynésianisme là-dedans et de dépenses budgétaires inutiles ?» Kennedy lui disait que les dépenses militaires c'était excellent pour créer de l'expansion économique, et c'est d'ailleurs dans le sillage de Kennedy que s'inscrit Johnson quand il se préoccupe, pas tout de suite au début de son mandat vraiment, de la question du Vietnam. Le Nord-Vietnam considère que le Sud-Vietnam doit être libéré. Le régime du Sud-Vietnam considère que son intérêt propre est plus important que celui des populations.
50 000 hommes vont être envoyés en renfort au Vietnam. Ce n'est pas une mobilisation, mais le chiffre des incorporations mensuelles sera doublé. Et de nombreux jeunes gens sont allés volontairement s'enrôler, portés par les mots du président Johnson annonçant le nouvel effort de guerre. Nous entendons convaincre les communistes que nous ne pouvons pas être battus par la force des armes. Pour cela, 4000 soldats d'élite, ceux qu'on a surnommés les aigles hurlants, viennent d'arriver à Saïgon. Ils ont débarqué sur un air de western et ils ont eu droit à l'accueil souriant des jeunes saïgonaises. Mais la brousse et la guerre de guérilla terriblement réelle, n'est qu'à quelques kilomètres avec tout ce qu'elle signifie. Bientôt, 125 000 soldats américains seront engagés dans cette guerre au Vietnam.
Et bientôt, la crise de conscience sera telle que les États-Unis se sentiront saisis d'un vrai charivari, un vaste tumulte à la fois créatif et destructeur à la place du projet unificateur de la grande société. Dont on dit quoi maintenant dans les milieux républicains et dans les milieux démocrates ?
Chez les démocrates, il y a une nostalgie pour une époque où les présidents étaient volontaristes, étaient capables d'avoir des grands projets de société. Pour les républicains, on pense que c'est une gabegie sans nom, que l'État ne savait pas ce qu'il faisait en mettant en œuvre des programmes, en dépensant de l'argent du contribuable. Donc il y a un regard qui divise, la grande société divise toujours l'Amérique aujourd'hui. Mais malgré tout, ce que je trouve très intéressant, et peut-être il faut le rappeler, c'est l'optimisme, la générosité de la période. Aujourd'hui, le président Barack Obama utilise très peu les termes de pauvreté, s'adresse rarement aux laissés pour compte de l'Amérique. Donc même si j'étais un petit peu dur avec Johnson, je pense que son regard sur la pauvreté, son envie de résoudre cette question fait de lui un président intéressant.
Et puis Hillary Clinton, c'est la politique étrangère musclée, la politique sociale plus nerveuse. Merci à vous, votre livre aux éditions de l'EHESS, votre article dans Alternative économique d'avril. Remerciements à Jacques Sigal pour avoir été l'interprète de Lyndon Johnson en même temps que le réalisateur de cette émission, à la technique David Federman. Mathieu Vidard.
Oui Jean, les origines et les pérégrinations de la lumière dans le cosmos, c'est le thème de la Tête au carré dans un instant.
Une vraie odyssée.